Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Case et Bulle, où nous allons reprendre le cours de la parution des albums, de quelques albums parus pendant l'été, ou qui viennent juste de paraître à la toute fin, non pas de l'été, mais des vacances scolaires. Ce sera une actualité de la bande dessinée un peu tournée sous le signe de l'histoire quand même, puisque nous commencerons par les entretiens que Numa Sadoul a conduit avec Jacques Tardy. C'était la réédition en 2026 d'un livre d'abord paru en 2000, mais évidemment une réédition augmentée avec des dessins et un peu de texte. Ensuite, nous parlerons de Naïs, une bande dessinée qui vient de paraître, qui est une adaptation des textes de Marcel Pagnol. C'est une excellente entreprise menée par le petit-fils de Marcel Pagnol qui défend l'œuvre de son grand-père, notamment en mettant en place toute une série de bandes dessinées remarquablement faites et surtout qui respectent un cahier des charges très précis. On enchaînera avec P12 et on avec non pardon avec Mrs Orwell, la femme d'Orwell, et on terminera avec P12 face au nazisme. Donc voilà, entre histoire vraie et rapport à l'histoire, c'est ainsi que va se dérouler ce planche case des bulles. Et évidemment, je fais tout ça avec Christole Seyec. Bonjour Christole.
Bonjour Richard.
Voilà, donc nos vacances sont quasiment finies, voilà, mais la bande dessinée a permis d'adoucir ce déchirement qui consiste à reprendre le travail. Et je me suis plongé dans les entretiens de Jacques Tardy et Numa Sadoul. Alors Numa Sadoul, qui est devenu célébrissime du jour au lendemain grâce à Tintin et moi, le livre d'entretien qu'il a réalisé avec Hergé. Et Numa Sadoul, historien de la bande dessinée, critique de bande dessinée, qui a beaucoup collaboré au Cahier de la bande dessinée, qui était édité par Glénat, est devenu en quelque sorte la Rolls-Royce des intervieweurs de bande dessinée, donc Gottlieb, Franquin, Jacques Tardy. Alors Jacques Tardy, on aime ou on n'aime pas, ou plutôt on a pu aimer et on n'aime plus dans mon cas, c'est-à-dire Jacques Tardy, c'est un dessinateur prodigieux avec un trait immédiatement reconnaissable qui est devenu une espèce de classique de la bande dessinée franco-belge avec des séries comme Adèle Blanc-Sec. Donc auteur passionné par la littérature populaire, auteur de gauche, anarchiste, libertaire, profondément antimilitariste et anticlérical. Donc une espèce de caricature de gauchiste de base, mais avec un côté nostalgique, presque amusant. Je veux dire, voilà, il bouffe du curé comme on le faisait en 1920. Il est passé complètement à côté du XXe siècle, évidemment du XXIe, avec ses opinions. Il est complètement décalé. Et il y a un parfum incroyablement nostalgique qui se dégage de ses aventures. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec de grands auteurs contemporains, Jean Vautrin, Daniel Pennac, avec à chaque fois une puissance d'évocation et un goût pour le document vrai, la manière précise dont on va rendre une atmosphère. Ce qui est très amusant, c'est que ces entretiens donc, sont parus en 2000 et maintenant sont réédités en 2026, et on se retrouve avec des chapitres techniques qui sont fascinants, d'une part parce que Tardy rentre vraiment dans la fabrication de la bande dessinée, la documentation, le scénario, le découpage, le dessin, l'épaisseur du trait. À un moment donné, il dit des choses tout à fait intéressantes sur l'épaisseur du trait. C'est la même épaisseur du trait qu'il s'agisse du premier plan ou du plan le plus lointain, parce que pour lui, la perspective est une convention et que donc ce n'est absolument pas là-dessus que joue son talent. Ce n'est pas sur dans la l'illusion de l'espace. Lui, sa grande préoccupation, c'est le temps, et il compare en permanence son art avec celui du cinéaste, qui dit que le cinéaste, lui, peut jouer avec le temps, c'est-à-dire s'il a envie que son gros plan fixe dure 2 minutes, il le fait, alors que l'auteur de bande dessinée ne peut absolument pas maîtriser la manière dont on va lire sa bande dessinée. C'est le lecteur qui impose le rythme, et donc c'est lui qui va parcourir plus ou moins rapidement les cases, la planche, la double planche, et tourner les pages. Donc il y a beaucoup d'aperçus intéressants, évidemment, puisqu'on parle de nostalgie, la manière dont il explique le temps qu'il passe à faire des photocopies ou à se documenter en allant à la librairie, à la bibliothèque, à l'heure d'Internet, paraissent délicieusement surannées. Mais voilà, ça participe aussi du plaisir de lire un auteur qui, par ailleurs, voilà, se vautre en permanence dans la nostalgie, notamment avec la série des Léo Mallet et d'autres grandes œuvres. Donc, c'est aussi l'illustrateur de Céline. C'est un monstre du dessin et de la bande dessinée franco-belge, même si ses derniers albums sont franchement décevants. Le trait a perdu de sa force, les intrigues ont perdu de leur nerveux, c'est moins intelligent. Voilà. Si on a envie de se replonger dans Tardi, alors d'une part, n'hésitez pas à lire ce gros ouvrage. Numa Sadoul lui sert la soupe. Tardi est assez satisfait lui-même. Dans les années 2000, c'était vraiment un des sommets de la bande dessinée franco-belge. Un auteur qui était reconnu par tout le monde, qui dessinait des affiches pour les films de Fellini, voilà, qui était vraiment le pape de la bande dessinée française. Casterman lui tressait des lauriers en or chaque année. Voilà, il a diminué, il a un peu tombé de son piédestal, mais il reste voilà un auteur majeur. Voilà, lisez Léo Mallet, évidemment, lisez ses adaptations, les premières, et lisez surtout Griffu, qu'il avait scénarisé avec Manchette, donc l'auteur du renouveau du polar à la française, qui avec ADG, qui lui était de droite et même très à droite, et donc qui n'a pas eu la même fortune ni littéraire ni financière que Manchette, avait inventé une manière de renouveler la série noire, qui est avec des polars français très incarnés, très ancrés dans l'époque. Bah, ADG, lui, contrairement à Tardi et à Manchette, comprenant parfaitement l'époque et n'étant pas resté bloqué sur les libertaires des années 20 ou sur les contestataires gauchistes des années 70. Cette première bande dessinée, qui n'est pas une bande dessinée, qui est un livre d'entretien, qui évidemment est farci de dessins remarquables de Tardi, dans lequel vous pourrez apprécier et son talent avec un trait qui réussit à être à la fois fort et vulgaire. Une vulgarité très assumée, il y a un refus de faire joli, si j'ose dire, même si de temps en temps, on sent bien que Tardi maîtrise parfaitement le vocabulaire des beaux-arts et de temps en temps est capable de restituer, presque malgré lui, un étagement des plans, une perspective remarquable, une alliance de couleurs parfaitement réussie. Voilà, c'est quelqu'un qui est on le sent, qui a beaucoup médité les caricaturistes du 19e et une grande partie des bons peintres et des bons cinéastes du 20e siècle. Christole, de ton côté, tu vas nous parler de quelque chose qui, là aussi, plonge ses racines dans la première moitié du 20e siècle, Naïs, adaptation de Marcel Pagnol.
Oui, alors les éditeurs d'Ado Courtoisie savent bien que Marcel Pagnol a célébré sa terre provençale. Peut-être s'étaient-ils en vacances en Provence eux-mêmes et ont-ils l'occasion de relire certaines œuvres de théâtre, Topaz, Marius, Fanny, César, de revoir des films, La fille du puisatier, La femme du boulanger, ou de lire certains romans comme La gloire de mon père ou Jean de Florette. Quand on cite tous ces titres, on ne sait plus trop si à l'origine c'était un roman, un film ou bien une pièce de théâtre, puisqu'il y a des romans qui ont été tournés après, plus tard en cinéma, ou bien nous avons des films qui ont plus tard été adaptés en littérature. En tout cas, pour Naïs, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas un récit originaire de Marcel Pagnol. Pour Naïs, Marcel Pagnol s'est inspiré de Zola. C'est une œuvre littéraire Zola qu'il a publiée, Zola, en 1877. Et c'était un récit un peu plus social et qui finissait mal, que celui de Naïs, qui plutôt, dans ses récits, est quand même dans l'esprit enfantin, gentil, enchanteur. Donc, il a un petit peu modifié la fin du roman de Zola. Alors, Naïs, c'est un film, et donc là, c'est un film qui est adapté en bande dessinée. Ceux qui connaissent le film tourné avec Fernandel se souviennent de l'histoire. Eh bien, nous avons près de Marseille un jeune bossu, Toine, qui est secrètement amoureux de la belle Naïs. Celle-ci s'en rend compte peut-être, joue un peu avec, elle-même garde le souvenir d'une embrassade d'été par le jeune et beau riche Frédéric. Et voyez-vous que Frédéric, l'été suivant, revient en vacances dans ce lieu, près de Marseille, et la belle Naïs tombe sous le charme de Frédéric. Il faut avouer que Frédéric, c'est pas un gentil garçon, du moins au début. C'est un enfant né riche qui passe ses soirées à faire croire à ses parents qu'il travaille ses études, alors qu'en vérité, il sort pour courir les jupons. Et donc, c'est le jupon de Naïs qui l'attire à Marseille. Mais la belle Naïs s'en rend compte, mais elle tombe éperdument amoureuse de Frédéric. Et donc, ils vont passer l'été à se voir, à se voir, voilà, et à s'embrasser. Et tout ça sous le regard triste, dramatique de Toine, le bossu, qui n'a jamais osé avouer son amour parce qu'il est handicapé. Et le fond de l'histoire aussi, c'est que le père de Naïs est un paysan d'une immense jalousie. Il a peur que les hommes séduisent sa fille, qui n'a que 17 ans, je crois, à l'âge du film et donc du roman. Et le père de Naïs, pardon, essaie même d'assassiner Frédéric, l'amoureux de Naïs. Et c'est le bossu qui va essayer d'éviter cet assassinat. Alors, je suis déjà rentré pas mal dans le détail dans l'histoire. En fin de compte, ce qu'on retient quand on lit le récit, c'est plutôt la toile de fond, où encore une fois, dans cette collection destinée à Marcel Pagnol, on redécouvre la merveilleuse terre provençale. Et comme tu le disais en introduction, il y a un cahier des charges pour chaque dessinateur, où ils doivent créer par la peinture une belle luminosité qui donne envie d'aller en Provence, un dessin clair, précis, avec des visages expressifs, même s'il y a dû y avoir pour l'instant une quinzaine de dessinateurs qui ont travaillé pour cette collection. On ne se rend pas trop compte que ça change de dessinateur, ils sont tous proches les uns les autres. Et c'est donc un grand plaisir de parcourir cette série. Là, le scénariste, c'est David Rath. Alors David Rath, vous connaissez peut-être son nom, on a dû en parler dans ton émission, puisque c'est le scénariste de la série Le Voyage des Pères, qui a reçu le prix international de la BD chrétienne en 2008. Et je sais même pas si on a déjà parlé de cette série dans ton émission, Richard, faudrait qu'on en
Je ne
reparle.
crois pas parce qu'elle
Oui.
était, elle était finie quand on a commencé, si j'ose dire.
Oui, effectivement, oui. C'est ce que je me suis dit. Et le dessin, pardon, pas le scénario, le dessin de David Rath, c'est un dessin d'une grande sensibilité, un trait chaleureux, donc qui correspond au cahier des charges. La couleur est numérique, David Rath a réalisé avec son propre fils, mais bon, c'est pas gênant, ça m'a pas choqué. Donc, encore une fois, effectivement, on ne peut qu'inviter les auditeurs qui aiment Pagnol ou ceux qui veulent le découvrir. De lire à côté des romans, ces bandes dessinées. Je conseillerais la trilogie Marius, Fanny, César, ainsi que Naïs, parce que c'est la dernière. Et puis, si vous y prenez du plaisir à les parcourir, vous pouvez y aller. Il y en a une vingtaine, une trentaine. Et le petit-fils de Marcel Pallone, Nicolas Pagnol, qui avait commencé par éditer la collection de son grand-père en DVD, a continué en bande dessinée. Il a eu pas mal d'ennuis. Par le milieu politique parfois gauchisant de Provence, qui assez paradoxalement s'est toujours méfiant quand on veut faire l'éloge de la terre des ancêtres, on va dire comme ça, mais il est resté droit dans ses bottes, Nicolas Pagnol, il continue son travail de façon très sérieuse.
Voilà, et vous pourrez retrouver d'ailleurs, si vous allez fouiner du côté des chaînes YouTube de Ligne Droite et de Radio Courtoisie, des entretiens qu'il a donnés à notre radio. D'ailleurs, ces chaînes, cette émission, tout ça, c'est grâce à vous, grâce à ceux qui nous donnent. Merci d'ailleurs beaucoup à ceux qui nous ont aidés à traverser l'été, qui est toujours une période un peu difficile, parce que les gens sont en vacances et nous aussi. Nous, on rediffuse, vous pensez à autre chose qu'à votre radio préférée, forcément. Grâce aux appels aux dons de notre président et à votre générosité, nous avons passé cet été, mais maintenant la rentrée arrive. Et nous avons passé un mauvais pas, mais maintenant nous devons reprendre le rythme normal. Et donc n'hésitez pas, soutenir.rc.fr, et ça vous permet de continuer à soutenir cette radio et qui nous permet de produire cette émission et toutes les autres. J'enchaîne sur une bande dessinée qui s'appelle Mrs. Orwell, qui est assez intéressante. Elle est scénarisée par Andrea Chalupa et dessinée par Bram Revell. Alors, Andrea Chalupa et Bram Revell sont deux auteurs américains. Chalupa est une féministe de gauche, évidemment, américaine, qui d'ailleurs a maille à partir avec le FBI et l'administration américaine à cause de sa sœur Alexandra Chalupa, qui elle-même a plus ou moins œuvré en Ukraine en 2014. Ce qui était intelligent sous Barack Obama l'est un peu moins sous Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle reprend la vie d'Hélène Auchincy, qui finira par épouser Eric Blair, alias George Orwell, et dans une perspective hagiographique, on ne peut pas le dire autrement, où il s'agit de montrer à quel point les biographes d'Orwell et Orwell lui-même ont été, malhonnêtes vis-à-vis d'Hélène Auchincy. Et ont minimisé son rôle. Orwell, par ailleurs, pendant qu'il était marié avec elle, tout en lui expliquant qu'elle était sa muse, la trompant allègrement avec nombre de personnes, y compris ses amis, et minimisant le rôle qu'elle a pu jouer dans l'organisation de sa vie littéraire et aussi l'organisation de leur voyage en Espagne, où ils ont lutté dans les rangs du POUM, le parti anarchiste qui a été l'objet de la haine de Staline, les communistes de l'époque ont dévoré les gens du POUM, ce qui d'ailleurs a permis à George Orwell d'ouvrir les yeux sur ce qu'était véritablement le communisme et en tout cas Staline. Hélène Auchincy est réputée avoir beaucoup aidé Orwell à accoucher La ferme des animaux, ce petit roman satirique absolument épatant. Donc ses amis, sa famille, les connaisseurs, ils voient sa patte au moins autant que celle d'Orwell. Et même les gens disent qu'un poème qu'elle avait écrit en 1934, qui s'appelait 1984, évidemment est l'une des inspirations de George Orwell, notamment avec La police de la pensée. La vie d'Hélène Auchincy est intéressante, mais c'est surtout le dessin de Bram Revel qui transforme cette hagiographie très habile, mais en même temps un peu anecdotique. Il s'agit de nous raconter les événements les plus saillants en une espèce de thriller palpitant, puisque le dessin de Bram Revel est particulièrement vif, particulièrement nerveux. C'est quelqu'un qui a été formé au storyboard. Il dessine des comics qui sont un peu surprenants, avec notamment Guérilla sur une espèce d'unité qui n'a jamais existé de chimpanzés, une unité d'élite composée de chimpanzés pendant la guerre du Vietnam. Donc des chimpanzés dressés à tuer, et dont évidemment on se pose en permanence la question de savoir si les chimpanzés sont bien au courant des implications politiques de leurs actes. Donc c'est assez drôle. Il a aussi dessiné une longue biographie, puisque là celle de Hélène Auchincy fait 224 pages, et là, de Hector Brulard, un franco-américain noir qui a été l'un des premiers pilotes d'avion français pendant la guerre de 14-18. Le dessin de Bram Revel est vraiment intéressant. Il est rapide, il est vif, la palette colorielle est réduite, mais tout ça est vraiment vraiment bien mené. Et le scénario d'Andrea Chalupa est plutôt là aussi bien mené. Donc j'ironise sur son côté féministe et gauchiste. C'est surtout sa postface qui est un morceau d'anthologie de la mentation gauchiste contemporaine, puisqu'elle mélange à la fois le Covid, les mésaventures de sa sœur en but au Trumpisme, et donc le Brexit, et tout ça lui paraît être particulièrement orwellien, et fasciste. Bon, vu de notre côté, tout ça a l'air plutôt bonhomme par rapport à ce qu'Orwell envisageait et à la manière dont il écrivait l'URSS de Staline et le communisme mondial. Mais n'enlevons pas à Chalupa ses illusions. Ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est qu'elle est aussi la scénariste de L'ombre de Staline, ce film réalisé par Agnieszka Holland, où on raconte la manière dont un écrivain britannique, un journaliste britannique, va découvrir le terrible secret de l'Holodomor, autrement dit la famine organisée par Staline en Ukraine, qui a poussé des centaines de milliers d'Ukrainiens à mourir de faim, étant donné que le blé qui était produit ne servait pas à la population, mais servait à financer en fait l'effort industriel de la Russie, donc qui déjà vandaliser les pays frères au profit de la mère patrie. Donc, la formation, si j'ose dire, historique de Chalupa, même de gauche, c'est quand même une gauche qui est capable d'autocritique, en tout cas qui est capable de ne pas être stalinienne. Beaucoup de Français, beaucoup de communistes français n'en sont pas là. Et elle a vraiment une science du rythme du récit qui en fait quelque chose d'intéressant. Hélène Auchonstein, de son côté, ben, on se dit que c'est une fille redoutablement intelligente. Elle a suivi des études à Oxford, notamment avec Tolkien. Être une gauchiste et une femme de lettres dans les années 30 en Angleterre n'est pas exactement le gage du succès mondain et financier. C'était encore un monde patriarcal, n'est-ce pas, Christol, comme nous le disons, en le regrettant. Mais elle mène sa barque. C'est quelqu'un de vif. Évidemment, Bram Revel, le dessinateur, lui donne une frimousse tout à fait agréable. Elle a un petit côté Audrey Hepburn qui est dans ses débuts, qui était assez bien vu. Et Eric Blair, alias George Orwell, lui, a tout de l'intellectuel britannique, quadragénaire, mince, petite moustache, regard fuyant et sourire séducteur quand il s'agit des amis de sa femme. Mais cette vie un peu ignorée, cette vie un peu mésestimée, c'est une manière de revisiter 15-20 ans de vie intellectuelle et de la vie de George Orwell d'une autre manière et avec des évocations oniriques à certains moments donnés tout à fait bienvenues et des passages vraiment à la fois angoissants mais prenants quand il s'agit de guerre d'Espagne ou charmants et drôlatiques quand il s'agit de leur vie à la campagne. Hélène Auchonstein, désormais Hélène Blair, évidemment assumant la quasi-intégralité des tâches par rapport à ce que faisait George Orwell. Mais voilà, donc un album Paris aux éditions Rue de Sèvres et que je vous conseille, qui a un vrai charme.
Eh bien, tant mieux, parce que
je me suis arrêté là.
Lire.
Voilà, alors on vient de finir la guerre de 39-45. Et justement, habile transition, tu vas nous parler de P12 sous le nazisme dans les 5 minutes qui nous restent.
Oui, pas de problème, puisque c'est une collection Un pape dans l'histoire dont on a déjà parlé dans ton émission. Il faut remercier Jacques Glénat dans les éditions Glénat, souvent d'ouvrir la porte à des bandes dessinées qui ont vraiment des idées saines. Il y a un peu de tout chez Glénat, mais il n'a jamais fermé la porte à des bandes dessinées qui ont des idées tout à fait intéressantes. Et c'est notamment le cas de la plupart des titres de la collection Un pape dans l'histoire, et surtout des deux derniers. Les deux derniers consacrés à Pie XII. Effectivement, ce pape qui a été très critiqué dans les années 60 suite à la pièce de théâtre Le Vicaire, qui faisait croire que ce pape avait quasi soutenu le nazisme, je vais un peu loin, mais du moins ne l'avait pas assez critiqué, eh bien, voyez-vous, cette bande dessinée le réhabilite totalement, avec un scénario plutôt intelligent, où on suit le parcours de deux jeunes femmes des années 60 qui sortent des pièces de théâtre où ça s'est mal passé, la pièce a été interrompue par des mécontents dans le public, et l'une des jeunes filles défend Pie XII, elle connaît bien le sujet, l'autre ne le défend pas du tout, c'est le pape d'Hitler selon elle, mais elle ne connaît pas le sujet, et celle qui connaît le sujet va bien expliquer la biographie de Pie XII, de sa naissance, puisqu'elle a lu ses mémoires, elle est très intéressée par le sujet. Elles sont si passionnées toutes les deux par ce récit, cette enquête, qu'elles vont aller en Italie interroger Sœur Pascalina, très proche de Pie XII, pour connaître le parcours de Pie XII lorsqu'il était en Allemagne juste après la Première Guerre mondiale et qu'il s'est rendu compte des méfaits du nazisme et du bolchevisme. Puis, de nouveau en Italie, elle va rencontrer le père Leiber, qui là était l'assistant de Pie XII, pendant les années 40, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un face-à-face entre l'évolution de ces deux personnages qui se rendent compte de la vérité sur Pie XII et les témoignages de Sœur Pascalina et le père Leiber qui nous dévoilent enfin ce que pensait véritablement Pie XII. Pie XII était au courant de l'horreur nazie comme l'horreur bolchevique, mais il savait très bien, parce qu'il y a des exemples récents en Europe, que s'il critiquait de façon radicale et ouverte le nazisme, le Troisième Reich s'en prendrait aux catholiques et qu'il y aurait des dizaines ou des centaines de milliers de déportés, non plus chez les juifs, mais également chez les catholiques. C'était son choix, tout à fait respectable. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été très reconnaissants envers Pie XII à travers l'État d'Israël, qui l'a officiellement remercié. Et Pie XII avait également participé à une lettre du pape Pie XI contestant, critiquant le nazisme. Donc, cette pièce de théâtre qui était vraiment scandaleuse, dans cette bande dessinée, la justice, la vérité est remise à sa place. Alors, j'étais un peu surpris de voir que le scénario était de Théa Rojman, qui jusqu'ici ne m'avait pas enthousiasmé par ses scénarios, mais celui-ci est très bien ficelé et le dessin est amusant. Le dessin, il a été réalisé par un Français né au Cameroun, mais à l'époque où le Cameroun était encore français, en 1959, et c'est le dessinateur qui a obtenu le succès dans le cadre de séries plutôt d'aventure, Narvalo, qui avait été scénarisé par Yann dans les années 2000, je pense, Dantès, qui était vraiment une très bonne dessinée adaptant Le Comte de Monte-Cristo, et Empire USA. Et surtout, applaudissons-le, l'année dernière, il a fait une bande dessinée aux éditions du Cygne sur l'apparition Maria de Notre-Dame de la Salette le 19 septembre 1846. Donc peut-être que c'est un nom que je n'avais pas assez mémorisé, Éric Jussézac, mais à travers ces derniers récits, je pense que c'est un dessinateur à suivre maintenant. Il a des choix scénaristiques intéressants.
Tout à fait. Voilà, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Je tiens vraiment à souligner le travail de Christol, voilà, qui ne se laisse jamais décourager par le fait qu'il a pu avoir une mauvaise expérience avec un scénariste ou un dessinateur et qui donc n'hésite pas à lire avec honnêteté et non pas avec un parti pris, même les bandes dessinées qui, sur les sujets où on peut tout craindre et avec les auteurs dont on peut craindre aussi qu'ils soient mauvais. Voilà, donc il va jusqu'au bout et nous livre une critique honnête. Bon, merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Christol d'avoir apporté ces deux bandes dessinées. Et nous vous disons, l'un comme l'autre, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planche, Case, Zébulle.